Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Lecaplain.
Avec Adrien Delgrange, ce qu'on dit les uns et les autres. Et nous décrypterons cette parole politique avec vous, Bernard Sananès. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Institut de Sondage Elab. C'est à lire dans le journal du dimanche une interview de Christophe Castaner qui se dit ouvert à un débat sur les quotas d'immigration. Le ministre de l'Intérieur réfute l'idée d'instaurer des quotas sur le droit d'asile, mais n'exclut donc pas que la question soit posée pour d'autres modes d'immigration légale, dit-il. Alors sur les quotas, Robert Ménard, maire de Béziers, soutenu par le Rassemblement National, soutient que tout ce qui limitera l'immigration de masse est bienvenu.
L'immigration, ça suffit. Il n'y a pas moins d'étrangers ou il n'y a pas moins de gens issus de l'immigration qu'il y a 20 ans. Enfin, attendez, vous allez dans la rue, vous vous en apercevez. Et cette réalité-là, c'est la préoccupation des Français.
Robert Ménard sur BFM ce midi. Bernard Sananès, faut-il interpréter ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur comme une main tendue à l'électorat d'extrême droite? Et avant cela, à la droite, tout simplement.
Je pense qu'il y a déjà la volonté du gouvernement de montrer qu'il se préoccupe de ces questions. Il faut savoir que dans les différentes enquêtes, ce n'est pas un sujet sur lequel le gouvernement est perçu comme particulièrement crédible par rapport à d'autres dimensions. Je dirais qu'il a un déficit de crédibilité en la matière, mais bien sûr, on ne peut pas sous-estimer l'enjeu politique de ces questions. Politique vis-à-vis d'électeurs de droite, même si les questions d'immigration sont maintenant un peu moins hautes dans la hiérarchie des priorités des Français depuis le conflit des Gilets jaunes, elles passent derrière les questions sociales. Il y a deux électorats qui les mettent nettement en tête, c'est l'électorat de droite et l'électorat du Rassemblement National. Ne pas sous-estimer aussi une dimension plus sociologique, c'est un thème très important pour les électorats des milieux populaires. Or, on le sait, on l'a vu cette semaine avec les déclarations, par exemple, de Gérald Darmanin. Le gouvernement, l'exécutif, semble désireux de renouer avec l'électorat populaire.
Plus largement à droite, avant-hier, le Premier ministre était dans le Tarn à Albi pour clore le congrès des villes de France. Il a appelé les maires à dépasser les étiquettes politiques vieillies. Cela sent la récupération politique au moment où la droite des Républicains est sous le choc du mauvais résultat aux européennes, ce qui a entraîné donc la démission de Laurent Wauquiez la semaine passée. C'est que la recomposition de la droite est devenue un vaste chantier avec le Rassemblement National en embuscade, Adrien Delgrange.
La droite française qui se cherche un nouveau chef et lorsque l'ancien président de la République, Philippe Nicolas Sarkozy, fait une apparition publique, eh bien les espoirs renaissent. Nicolas Sarkozy était à Belfort cette semaine. Alors malgré l'affection qu'il porte à la droite, l'idée d'un retour à la tête des Républicains n'est pas à l'ordre du jour pour Nicolas Sarkozy.
J'ai beaucoup de fidélité et d'amitié pour les militants, les électeurs, tous ceux qui m'ont fait confiance. Je les aime beaucoup, mais ce n'est plus mon quotidien. Et c'est pas ma responsabilité, je ne suis plus élu. Ce n'est pas mon actualité, c'est pas ma vie.
Alors au-delà des personnes, sur quelles idées, quels programmes et puis avec qui la droite peut se reconstruire? Eh bien pour le sénateur LR Roger Karoutchi, toutes les sensibilités doivent se rassembler si la droite veut un jour revenir au pouvoir.
Moi j'admets parfaitement que Sens Commun soit là, que les libéraux soient là, que les gaullistes soient là. Je veux dire, ou bien vous dites toutes les sensibilités doivent être là et vous acceptez même celles qui ne sont pas les vôtres, ou vous dites je n'accepte que la mienne et après on peut vous faire un procès en monolithisme.
Alors vous le disiez Philippe, devant la décomposition de la droite, deux partis se frottent les mains, RN et La République En Marche. Pour Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, au-delà des alliances de partis, pour les élections municipales de l'année prochaine, c'est l'engagement citoyen qui l'intéresse.
Alors moi je ne crois pas beaucoup à l'idée des alliances, si ce sont des alliances de partis politiques. Nous allons plutôt ouvrir nos listes, accueillir les gens qui font le même constat que nous et qui partagent la même ambition locale que nous. Donc il s'agit de nous ouvrir très largement parce que une élection locale, c'est rassembler des citoyens sur des problématiques locales. Donc par conséquent, il ne s'agit pas d'alliance d'appareil, mais plutôt de la capacité d'aller tendre la main à des Français et des Françaises qui n'avaient pas nos options peut-être au niveau national.
Et puis pour La République En Marche, rappelons qu'aucun maire n'a été élu sous l'étiquette LREM. Le parti n'existait pas en 2014. Le parti présidentiel joue gros donc lors de ce prochain scrutin, fort de son bon résultat aux élections européennes. La République En Marche met la pression sur les maires de droite. Soit vous venez avec nous, soit on vous met un candidat à La République En Marche en face. Une chose est sûre, la porte de La République En Marche est grande ouverte, à condition, dit Amélie de Montchalin, d'être en phase avec les idées du président.
À minima,
pas soutenir au premier rang des candidats qui manifestement ne sont pas des amis du président, puisqu'ils considéraient les uns les autres que tout ce que nous faisions était mal du début à la fin. Mais il y a des gens qui resteront, des gens qui pourront dire « je suis de droite » et qui nous souviendront. Il y a des gens qui pourront dire « je suis de gauche » et qui nous souviendront.
Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes sur France Inter aujourd'hui.
Bernard Sananès de l'Institut est là. 9 mois des municipales de mars prochain, donc après une première partie du quinquennat marquée par de fortes pressions entre tensions entre l'exécutif et les élus locaux, le gouvernement entend donc désormais replacer les maires au cœur de l'action politique locale, leur redonner des marges de manœuvre. Ce sont les phrases officielles. Ça veut dire que La République En Marche vise maintenant à s'implanter localement.
C'est un enjeu très important pour La République En Marche qui, vous l'avez évoqué, n'a pas cet ancrage, n'a pas de maire. La République En Marche a des députés, mais comme le cumul des mandats interdit justement la double fonction entre député et maire, beaucoup de ces députés, à part ceux qui étaient déjà inscrits dans le paysage local parce qu'ils avaient eu une investiture précédente, n'ont pas justement réussi à constituer ce réseau territorial. Et on l'a bien senti, par exemple, dans la crise des Gilets jaunes, beaucoup de reproches ont été faits à l'exécutif en se disant, si vous aviez eu ces capteurs du territoire, vous auriez anticipé ce conflit et ce mouvement social que vous n'avez pas réussi à venir. Donc c'est très important pour savoir si, j'allais dire, La République En Marche peut se développer au-delà même du phénomène d'Emmanuel Macron et si c'est un phénomène politique qui s'installe sur la durée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va voir si les deux grands partis qui ont structuré la vie politique française, LR, ex-UMP et Parti Socialiste, qui avaient été nettement en tête des élections municipales, ce sont eux qui cumulent le plus d'élus, la droite étant majoritaire maintenant dans les communes de plus de 9000 habitants depuis les dernières élections de 2014. Est-ce que ces deux grands partis historiques, dits anciennement partis de gouvernement, vont être à la fois une nouvelle fois frappés par le dégagisme au niveau municipal, ou au contraire, est-ce que leur sortant, leur bilan municipaux, va les permettre de continuer à avoir cette implantation locale?
On entendait il y a de cela quelques instants Nicolas Sarkozy, Bernard Sananès. Sa popularité demeure élevée, comme en témoigne un sondage que vous avez réalisé pour BFM Télé.
Oui, tout à fait. Quand on demande aux sympathisants de droite, alors qu'on les prenne, qu'ils soient sympathisants LR, sympathisants de droite, anciens électeurs de François Fillon, parce que maintenant c'est compliqué de retrouver tous les petits de la droite, Nicolas Sarkozy apparaît comme celui qui peut apparaître comme le leader. Alors, recours ne veut pas dire forcément retour. Nicolas Sarkozy reste marqué par sa défaite électorale. Il est encore sous le coup de procédures judiciaires. Mais ce qui est très intéressant dans l'électorat de droite, c'est que le souvenir de Nicolas Sarkozy, cette image, elle reste façonnée par la dernière victoire que la droite a connue au moment de l'élection présidentielle. C'est Nicolas Sarkozy qui, pour la dernière fois, a amené la droite à l'Élysée. Et il le faisait, j'écoutais Roger Carucci dans votre sonore tout à l'heure, et Nicolas Sarkozy l'a fait en réussissant à rassembler tous les courants de la droite. Or, le problème de la droite aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus de leadership unique, et deuxièmement, elle n'arrive plus à se rassembler autour de ses idées.
La recomposition de la droite, il en est question en France, également au niveau européen. En effet, à la suite des élections européennes, se dessine plus finement maintenant l'équilibre des forces au Parlement de Strasbourg. Et à droite, justement, Adrien, les choses ne sont pas si simples.
En effet, car ce match national pourrait bien se rejouer dans d'autres mesures au niveau européen. Cette semaine, Marine Le Pen a Bruxelles n'a pas ratissé aussi large qu'elle le souhaitait pour créer un groupe d'eurosceptiques. Par exemple, les Polonais du PiS ne l'ont pas suivi. En revanche, fort tout de même de ses 72 eurodéputés à Bruxelles, pour Sébastien Chenu, l'extrême droite espère bien jouer sa partition.
En devenant ce groupe charnière, tout comme les Verts vont devenir un groupe charnière également, nous pouvons influer sur les votes du Parlement européen, ce qui n'était pas notre possibilité lors du dernier mandat. Donc je crois que, comme l'a dit lui-même Jean-Claude Juncker, ils vont, en parlant de nous, peser très fort.
Et puis cette semaine, Nathalie Loiseau a raté le coche, voire s'est tiré une balle dans le pied pour tenter de prendre la présidence d'un groupe centriste, comme le voulait Emmanuel Macron. Elle a tiré devant des journalistes tous azimuts, qualifiant par exemple l'ex-ministre des Affaires européennes de la présidence de la Commission, Manfred Weber, d'ectoplasme. L'ancien eurodéputé français Jean Arthuis, il était gris. Ou encore Guy Verhofstadt, un vieux de la vieille. Ce matin, la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin, a du mal à défendre Nathalie Loiseau.
C'est des propos qui, effectivement, posent question. Parce que l'esprit dans lequel on veut travailler en Europe, c'est un esprit d'union, c'est un esprit de compromis et c'est un esprit de consensus. Moi, vous savez, de là où je suis aujourd'hui...
Irresponsable ?
Je ne vais pas qualifier ces propos, c'est des propos en off. Je n'étais pas dans la pièce. Et en général, quand les propos en off sont tenus, c'est bien parce qu'ils sont en off.
Amélie de Montchalin sur France Inter.
Bernard Sananès, Emmanuel Macron échoue-t-il à refaire au niveau européen ce qu'il a réussi à faire en France, c'est-à-dire à faire exploser la droite pour en récupérer une partie?
Effectivement, pour l'instant, en tout cas, cela ne fonctionne pas au niveau européen. On voit bien d'ailleurs que finalement, le Rassemblement National comme La République En Marche essaient à Bruxelles ou à Strasbourg de sortir de leur isolement et que autant ils ont réussi à résumer le duel politique à leurs deux forces pour l'instant au niveau national, autant au niveau européen, ils restent là plutôt comme des partis charnières, des partis qui effectivement peuvent faire peser une décision dans un sens ou dans un autre, mais les deux grands partis, notamment PPE et sociaux-démocrates, comptent un plus grand nombre d'élus. Et c'est important pour Emmanuel Macron de réussir à sortir de son isolement. Pourquoi ? Parce qu'il a un électorat qui, sur l'Europe, est pro-européen, mais c'est une exigence européenne. Cet électorat a cru que Emmanuel Macron pouvait réussir à infléchir la politique européenne. S'il apparaît isolé, c'est aussi sa crédibilité à agir au niveau européen qui apparaîtra affaiblie aux yeux de ses électeurs, notamment de ses électeurs de premier tour.
Concernant le groupe fédérant les extrêmes droites à Strasbourg, et ben il ne les fédère finalement pas tant que ça, puisque le RN doit en rabattre sur sa volonté d'une Union européenne des extrêmes.
Oui, ça avait déjà été le cas la dernière fois. On voit bien, et ça pose la question au niveau européen, comme au niveau français, on voit bien que parfois Marine Le Pen apparaît comme, je dirais, un élément de blocage, qu'elle n'apparaît pas comme un élément de rassemblement, et ça limite peut-être la progression du Rassemblement National, à la fois au niveau national et au niveau européen.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. L'acte 2 de la présidence d'Emmanuel Macron a officiellement commencé cette semaine, quand son Premier ministre a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, puis devant le Sénat. Il a été approuvé par la première, dénié par le second. Ce discours, en tout cas, intervient après la crise des Gilets jaunes, après les élections européennes. Édouard Philippe a dit tenir compte de ces deux événements pour organiser l'action future en trois temps, Adrien.
Et notamment prendre en compte, Philippe, la vague verte des dernières élections européennes, notamment en France. Et dès le début de sa déclaration, Édouard Philippe met l'accent sur l'écologie.
Ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert. Mais oui, j'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité.
Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, à gauche, le Premier ministre ne convainc pas, à l'instar du député communiste Pierre Dharréville.
On voit un Premier ministre en face de nous qui essaye de se repeindre un peu en vert, un peu
greenwashing.
Voilà, qui essaye un petit peu de nous expliquer qu'il veut lutter pour la justice sociale, mais rien dans les actes qu'il propose ne va dans cette direction.
Autre annonce phare cette semaine d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, la baisse de la fiscalité.
Avec le président de la République, nous avons reçu 5/5, fort et clair, le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. Nous avons donc décidé d'une baisse d'impôts historique. Au total, sur l'ensemble du quinquennat, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros.
Et là aussi, et pourtant, le sujet leur est cher, à droite, pas plus d'adhésion. Écoutez les députés LR Éric Ciotti et Daniel Fasquel.
Il y a de belles annonces, de beaux cadeaux qui sont faits aux Français, mais ce sont des cadeaux qui sont faits à crédit, qui ne sont pas financés aujourd'hui.
Pas un mot sur les déficits, sur la dette. Ça veut dire que tout cela cache les impôts de demain.
Vas-y. Et puis la PMA, enfin, la procréation médicalement assistée. La PMA pour toute réforme politiquement explosive, annoncée, reportée maintes fois par le gouvernement, est désormais inscrite dans le calendrier.
Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire.
Édouard Philippe, cette semaine devant les députés, puis enfin ce matin sur Europe 1, la ministre de la Santé Agnès Buzyn est venue préciser un point important, à savoir la question du remboursement de la PMA par la Sécurité sociale.
Aujourd'hui, c'est ce que je souhaite voir inscrit dans la loi, parce que sinon, elles auront un droit formel, mais pas un droit réel. Aujourd'hui, nous observons que celles qui ont les moyens vont de toute façon en Belgique. Donc, ce qui bloque aujourd'hui les couples de femmes pour avoir des enfants, ce sont les moyens. Donc si on veut être logique et leur donner l'accès réellement au fait d'avoir un enfant, il faut leur donner les moyens de le faire.
La ministre de la Santé sur Europe.
Bernard Sananès, votre institut de sondage est là, a interrogé 1005 Français âgés de 18 ans et plus pour savoir ce qu'ils avaient pensé de l'intervention du chef du gouvernement. Alors, quel constat ont-ils fait? D'abord, que les Français ne croient pas au changement de style et de méthode?
Oui, effectivement, 8 Français sur 10 ne croient pas au changement de style et de méthode. C'est un chiffre très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en la matière, quand on regarde la gouvernance de l'exécutif, l'image de ce gouvernement est structurée. Les Français se sont fait un avis et ils ne voient pas, ils n'imaginent pas que ce gouvernement va changer de méthode. Et par exemple, sur les retraites, le fait que, ou sur l'assurance chômage, le fait que les partenaires sociaux, par exemple, indiquent qu'il n'y a pas beaucoup de discussions avec l'exécutif peut renforcer cette idée. Donc, dire qu'on va changer de méthode, c'est une chose. Le prouver dans les actes, pour l'instant, ça n'a pas encore convaincu les Français.
Le Premier ministre a annoncé la baisse du taux d'imposition sur les 2 premières tranches. Cette annonce est-elle considérée comme crédible par
les
Français?
Alors, non, mais dans une proportion qui, là, montre que le gouvernement marque un certain nombre de points. Puisque, pour répondre à votre question, 58% la jugent pas crédible, 42% crédible. Quand on avait posé la même question il y a un an, quand le gouvernement a commencé à parler de baisse d'impôts, il n'y avait qu'un quart des Français qui la trouvaient crédible. Donc on voit bien que là, à force non seulement de communication, mais d'annonces répétées, qui commencent à entrer concrètement dans les foyers, le gouvernement marque des points dans son électorat, mais également vis-à-vis de l'électorat de droite. Il y aura un sujet qui est très important pour lui, c'est de voir si les classes moyennes, qui sont directement concernées, et les plus modestes, elles aussi, commencent à croire vraiment à cette baisse d'impôts.
Venons-en au tournant écologique. Le Premier ministre a parlé d'accélération écologique. Est-ce que les Français y croient?
Les Français, pour l'instant, disent « vous êtes des convertis récents ». Donc non, ils n'y croient pas pour 70% d'entre eux. C'est vrai que là aussi, on a eu des annonces d'Edouard Philippe. Il va falloir du temps pour qu'elles se concrétisent. Mais le gouvernement a aussi, je dirais, en bilan négatif, le départ de Nicolas Hulot. Donc une partie de l'électorat se dit sans doute, même si Nicolas Hulot n'a pas réussi à poser des actes forts, est-ce que cet exécutif-là peut y arriver? Seul petit point encourageant pour l'exécutif, chez les jeunes, ce chiffre de crédibilité passe de 30 à 44%. Or, on le sait, les jeunes sont les plus sensibles à ces questions environnementales.
Aux européennes, le bon score des écologistes, c'est un vote générationnel.
C'est un vote générationnel, c'est un vote qui s'est homogénéisé également, par classe d'âge, à l'exception des retraités. Dans les territoires, il reste bien sûr plus fort dans les grandes villes, mais il a aussi progressé en zone rurale. Il y a une fracture pour le vote écologiste, c'est que l'écologie n'arrive pas encore à attirer, à mordre sur l'électorat populaire. Ça reste un électorat des plus favorisés, des CSP+, comme on dit, des plus diplômés notamment.
Et sur la PMA?
Bien, sur la PMA, le gouvernement va entamer ce débat, qui est toujours un débat compliqué, vous l'avez dit, c'est un débat sociétal. Je ne sais pas s'il sera explosif. Il démarre avec un a priori plutôt positif. Plus d'un Français sur deux y est favorable. Un sur trois y est opposé. Mais on voit bien que les opinions ne sont pas encore tranchées. C'est un débat qui, là aussi, va fracturer notamment la droite, hein, qui est très divisée sur ce sujet et qui est plutôt opposée. À l'inverse, à gauche et chez les électeurs de La République En Marche, c'est une proposition qui obtient un soutien assez fort. Maintenant, comment le débat va évoluer? Il y a plein de sujets qui peuvent venir, j'allais dire, le polluer pour le gouvernement. En tout cas, je dirais que pour l'instant, c'est une question qui suscite un clivage. Il n'y a pas d'homogénéité de l'opinion là-dessus. Pour l'instant, on ne voit pas encore de fracture, comme par exemple la question du mariage pour tous l'avait provoqué dans la société française. L'opinion évolue sur ces questions. C'est un débat qu'il va falloir suivre dans les prochaines semaines.
Une dernière chose, Elab s'intéresse à la cote de popularité des uns et des autres. Emmanuel Macron retrouve le niveau de confiance dont il bénéficie avant l'épisode Gilets jaunes.
Tout à fait, 32% plus 5 points en ce début juin. On voit bien que l'exécutif a réussi à sortir de cette phase où il avait une hostilité qui était extrêmement forte. Maintenant, il reste, il faut le rappeler, fortement impopulaire.
Merci Bernard Sananès, président de l'Institut de Sondage Elab. Ça a été un plaisir de vous recevoir pour la première fois dans Dimanche Politique. La politique encore sur RFI, ce sera demain matin Karima Deli qui sera l'invitée de la rédaction, députée européenne écologiste, présidente de la Commission des Transports et du Tourisme au Parlement européen. Et puis notez aussi que Mardi Politique recevra Éric Coquerel, député de la première circonscription je vais y arriver, du 93. membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale et coordinateur du parti de gauche. Merci pour votre écoute de Dimanche Politique.